Alors, bonjour à tous. Je recevais les salutations des membres de notre Église, de l'Église de Dlin, G-L-A-I-N, et non pas G-H-L-I-N, G-L-A-I-N dans la région de Liège. Je vais demander à mon frère Gino de surveiller mon débit de voix ce matin. Alors, si tu vois que je vais trop vite, tu lèves la main. Les Québécois, on parle extrêmement vite, alors je vais demander à mon frère Gino de lever la main quand le débit est trop rapide pour que vous puissiez, en fait, entendre tout ce que le Seigneur a à partager à son Église ce matin. C'est vraiment une grande joie de venir dans cette Église. J'ai une affection particulière pour votre Assemblée. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est le Seigneur qui nous met ça à cœur, mais je me sens vraiment à l'aise ici de partager à chaque fois que je viens ce que le Seigneur a placé sur mon cœur. Et à travers tous les chants qui ont été entendus ce matin, que vous avez exprimés, eh bien, il est bon de se rappeler à travers ça où nous étions quand le Seigneur est venu nous chercher et ce que le Seigneur a fait avec nous depuis qu'il est venu nous chercher. Et on vivait dans les ténèbres et le Seigneur nous a amenés dans la lumière et c'est ça qui est merveilleux. Et ce qui est béni, eh bien, le Seigneur, les voies de Dieu sont impénétrables, sont insondables. Et si on pouvait demander à chacun de rendre témoignage comment Dieu a été les chercher, eh bien, ce serait inimaginable tout ce qu'on pourrait raconter. On a un grand Dieu, un Dieu merveilleux. Le Seigneur, ce matin, m'a mis à cœur de vous partager un message d'encouragement. Alors, en tout cas, ça m'a fortement encouragé de le préparer. J'espère que pour vous, eh bien, ce sera de même. Nous allons regarder ensemble dans le livre des Lamentations de Jérémie ce matin, un livre qui contient des réactions douloureuses du prophète Jérémie suite à la destruction de Jérusalem et de son temple qui s'est produit à son époque. Et sa douleur est compréhensible. Pendant que vous allez dans les Lamentations de Jérémie, je vais vous partager l'introduction que j'ai à cœur. Eh bien, lorsqu'on lit dans le livre de Jérémie, pas Lamentations, mais le livre de Jérémie, les chapitres 32 et 33, nous apprenons que les gens d'Israël et de Juda n'avaient fait que ce qui déplaisait au Seigneur en adoptant la façon de vivre des nations païennes qui vivaient autour d'eux. Et à cause de leur péché, Dieu s'apprêtait à faire tomber son jugement sur le peuple. Et c'est dans ce contexte que Dieu va envoyer Jérémie prêcher sa parole à un peuple qui ne voudra pas entendre son message. Et ça ne va pas être encourageant pour Jérémie parce que le seul message que le Seigneur voulait que Jérémie amène, c'était un message de jugement. Et ce, pendant 50 ans. Alors, si ça peut vous encourager aujourd'hui, si vous continuez à prier pour que des âmes viennent à Christ, eh bien, je vais vous donner deux exemples pour vous encourager fortement. Vous savez, Noé a prêché l'Évangile pendant 120 ans et il n'a pas réussi à amener une seule âme au Seigneur. Et j'imagine que les gens devaient se moquer de lui à son époque. Jérémie a exercé son ministère pendant 50 ans et il n'y a personne, en tout cas, nulle part dans la Bible, on nous dit que sous son ministère, il y a quelqu'un qui s'est converti. Alors, si le Seigneur, pendant tout le temps de votre pèlerinage terrestre, à travers vos prières, à travers la compassion et la compassion que vous avez pour les âmes, vous permet d'amener une seule âme au Seigneur, eh bien, il aura fait plus à travers vous que ce qu'il aura fait à travers Noé et à travers Jérémie. Et c'est une grâce que le Seigneur vous aura fait. Et on sait que le Seigneur veut que tous parviennent au salut, que tous parviennent à entendre la vérité. Et on a un Dieu merveilleux. Et on va le voir à travers les Lamentations de Jérémie ce matin. Pardon. On va lire d'abord le chapitre 3. Parce qu'on peut se demander comment Jérémie a-t-il pu tenir le coup, a-t-il pu tenir debout pendant les décombres de la ville, à travers les décombres de la ville, alors, et comment il a pu continuer à louer son Seigneur alors que le peuple était déporté, alors que la ville avait été détruite. Quel était le secret de Jérémie? Eh bien, Jérémie savait que peu importe si les choses allaient bien ou tout s'effondrait autour de lui, Dieu serait toujours Dieu et que Dieu serait éternellement fidèle à son peuple. Et on a chanté un cantique ce matin qui parlait de la fidélité de Dieu. Heureusement que Dieu n'est pas comme les hommes, n'est pas comme les femmes, n'est pas comme les êtres humains. Quand il dit « Je te serai fidèle », Dieu est fidèle. Amen. Dieu nous dit, quand il dit qu'il est fidèle, il est fidèle. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire la fidélité de Dieu. Qu'est-ce que c'est la fidélité de Dieu pour vous? Qu'est-ce que c'est la fidélité de Dieu pour moi? Qu'est-ce que c'est quand Dieu fait une promesse? Qu'est-ce que c'est pour vous quand Dieu promet quelque chose dans sa parole? Quel impact elle a dans votre vie? Quel impact elle a dans ma vie? C'est quelque chose d'important, parce que c'est ce qui va changer toute notre façon de voir la vie chrétienne. Il dit au chapitre 3, versets 21-26, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur. ce qui me donnera de l'espérance. » Et je ne connais pas votre situation aujourd'hui, mais peut-être que vous êtes rentré ici ce matin, vous avez un fardeau énorme qui est en train de vous écraser, un fardeau qui est pesant. Vous vivez une situation qui est difficile. Vous avez l'impression que vous êtes débordé par les événements que vous vivez. Si vous lisez juste les versets 19 et 20 dans le livre de Jérémie, eh bien, vous allez voir qu'il est au bord de l'abîme, Jérémie. Il est découragé, il est déprimé. Mais regardez ce qu'il dit ici. « Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donne de l'espérance. » Et peu importe ce que vous vivez ce matin, eh bien, prenez ces paroles de Jérémie pour vous, parce que vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes né de nouveau, et que Dieu est votre Père. Dieu est votre Père. Nous sommes ses enfants, et Dieu veut vous bénir ce matin. Et j'espère que vous êtes entré ici avec une conviction que Dieu est ici pour vous communiquer quelque chose, vous donner quelque chose, déverser quelque chose dans votre cœur. Et ce matin, si on permet à nos, non pas à nos oreilles d'entendre ce que Dieu a à nous dire, mais à notre cœur d'entendre ce que Dieu a à nous dire, je suis convaincu d'une chose, c'est que vous allez sortir d'ici avec quelque chose de plus que quand vous êtes rentré, parce que l'Esprit a encore des choses à dire à son Église ce matin. Et ici, il dit, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donne de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas, à leur terme. Elles se renouvellent à chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui? Pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Est-ce que vous dites « Amen » à ça ce matin? Amen, on va prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons vraiment nous en remettre à toi ce matin. Nous voulons laisser la place à ton esprit pour parler à nos cœurs. Seigneur, tu connais les besoins de tous et chacun ici. Seigneur, nous voulons que l'homme s'efface et qu'à travers sa bouche, Seigneur, tu puisses, Seigneur, transmettre ta parole afin, Seigneur, que nos vies soient interpellées, encouragées, fortifiées, exhorté par ce que l'Esprit a à dire à son Église ce matin. Seigneur, nous voulons te remercier pour la parole que tu nous as laissée. Merci parce que c'est une parole qui est vivante, c'est une parole qui agit dans nos cœurs, qui défriche, Seigneur, ce qui doit être défriché, qui aussi, Seigneur, nous fait grandir dans ta grâce et dans la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Et ce matin, Seigneur, nous voulons vraiment nous en remettre à toi, afin que tu puisses vraiment, Seigneur, nous fait grandir dans notre connaissance de ce grand Dieu merveilleux qui est fidèle, qui est bon, qui est juste et qui s'est racheté un peuple à un prix si grand, en offrant son propre fils en sacrifice pour des pécheurs tels que nous. Seigneur, sois loué, sois béni d'avance pour tout ce que tu feras, Seigneur, pour tout le restant de ce culte. Et c'est en Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Amen. Chers amis, comme Jérémie, nous arrive de traverser des moments où nous avons l'impression que tout risque de s'effondrer autour de nous. Et quand nous traversons ces moments difficiles, nous avons besoin d'avoir la certitude que nous pouvons compter sur ce Dieu, sur sa fidélité de Dieu. Et heureusement que notre grand Dieu donne une preuve accablante de sa fidélité immuable dans sa parole. Et le mot « fidélité » au verset 23 ici, que Jérémie parle, le mot « fidélité » en hébreu signifie « celui qui respecte ce qu'il a promis ». Et ça, c'est merveilleux. Moi, sans toi, ça me fortifie énormément, parce que le Seigneur, il me dit qu'à la fin des temps, il va me ramener de la mort à la vie, comme il a ramené Jésus-Christ de la mort à la vie. Et ce Dieu, il est fidèle, donc je sais une chose, c'est qu'il va respecter ce qu'il a promis, c'est que de la même façon qu'il a ramené Jésus-Christ de la mort à la vie, de la même façon, un jour, il va me ramener de la mort à la vie. Il dit aussi qu'un jour, il va me faire régner avec Christ dans son royaume. Eh bien, ça, c'est magnifique. Dieu est fidèle. Eh bien, ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Pas extraordinaire, ça, hein? Avez-vous déjà pensé si vous seriez assez effronté pour vous rendre voir le roi des Belges et lui demander qu'il vous permette de s'asseoir sur son royaume, sur son siège, ce qu'il vous dirait, le roi des Belges? Ben, vous ne seriez pas capable de franchir la porte. Premièrement, il y a tellement de gardes qui surveillent pour nous empêcher de voir le roi des Belges qu'on serait, pas le trône, mais le siège du roi des Belges, il est inaccessible. Est-ce que vous savez que dans l'Apocalypse, le Seigneur, le Tout-Puissant, celui qui règne sur l'univers, a dit que sur la nouvelle terre, sur la nouvelle terre et dans les nouveaux cieux, c'est que son enfant, il va lui permettre de s'asseoir sur son siège, sur son trône. Est-ce que vous réalisez, le Dieu Tout-Puissant nous dit, écoute, c'est Jésus, hein, Jésus dit, tiens mon enfant, assieds-toi à place, toi, mon enfant. C'est extraordinaire. Hein? On a un Dieu extraordinaire, on a un Dieu merveilleux, frères et sœurs. On a un Dieu qui aurait pu vouloir ne rien partager avec sa créature et qui a décidé de tout partager avec nous. On a un Dieu, vous savez, que ce n'est pas un Dieu qui va mourir d'ennui, qui ne risque pas de mourir d'ennui. Dieu s'auto-suffit à lui-même. Dieu n'était pas obligé de vous créer, n'était pas obligé de me créer non plus. Hein. La Trinité, elle se complaisait depuis toute éternité. Elle s'auto-suffisait en elle-même. Elle était dans la joie, dans une joie grandiose qu'on n'est pas capable de définir. Et pourtant, Dieu a décidé en Jésus-Christ, il a choisi que nous puissions partager l'éternité avec lui, avec toutes ses promesses. Et ça, c'est extraordinaire. Et j'espère que vous vivez en fonction de ces promesses que Dieu nous donne dans sa parole. Les versets 22 et 23, première partie des versets 22 et 23, mettent en lumière pourquoi Jérémie a pu proclamer que dans sa grâce, Dieu est fidèle. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Cela signifie, frères et sœurs, qu'elles sont inépuisables. Cela signifie que Dieu n'est pas au bout de son amour. Il nous sauve, il nous garde, il nous protège jour après jour. Frères et sœurs, la grâce que Dieu en réserve pour vous aujourd'hui, vous la saisissez parce que demain, c'est une autre grâce que Dieu en réserve pour vous. Et la grâce, dans la parole, c'est aussi synonyme d'une bénédiction. Dieu a une bénédiction pour vous aujourd'hui. Dieu aura une bénédiction pour vous demain. Si vous n'avez pas saisi la grâce qu'il avait pour vous hier, eh bien, elle est passée. Hier, c'est hier. Mais Dieu a une grâce pour vous aujourd'hui. Et cette grâce, c'est qu'il veut vous amener à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Ouais. À travers vos expériences de vie, à travers vos difficultés, à travers vos épreuves. Ouais. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ce matin? Quand Paul dit « Rendez grâce à Dieu en toutes choses », c'est pas facile, hein? Pas facile, hein? Dans les bons moments, mais quand tu es écorché un peu, hein? Pas facile de dire, Seigneur, je te rends grâce. Ouais. Mais quand on ne perd pas de vue pour laquelle Dieu permette qu'on vive des épreuves, des difficultés, des choses terribles, quand on ne perd pas de vue que le but, Romains 8, 29, c'est uniquement dans le but de nous amener à ressembler à Jésus-Christ, on peut rendre grâce à Dieu en toutes choses, dans les bons comme dans les mauvais moments. Ça, c'est le mandat que Dieu s'est donné à partir du moment où il nous a sortis de la boue pour nous faire connaître la lumière. Le but de Dieu, c'est de nous amener à ressembler à la personne de Jésus-Christ. Et c'est là qu'on peut dire qu'on a un Dieu qui est patient. On a un Dieu qui est patient. On tombe, il y a toujours la main tendue pour nous relever. Et il y a toujours, et quand on ouvre la bouche pour confesser notre péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner tout péché. Ça, c'est le Dieu que je sers, et j'espère que c'est le Dieu que vous servez. Jérémie s'est non seulement rappelé que Dieu est fidèle dans sa grâce, mais qu'il est fidèle dans ses promesses. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, dit Jérémie. Et nous savons que le mot compassion est un mot qui veut dire être tout remué dans son cœur à cause de l'amour qu'on éprouve pour les autres. C'est ça, être compassion, avoir compassion. Jésus avait compassion de la foule qui marchait et qui était sans berger. Et j'espère, frères et sœurs, parce que je pense que c'est ce que l'Église a besoin aujourd'hui, c'est d'avoir compassion pour les gens qui sont à l'extérieur, qui sont dans les ténèbres et qui vivent sans berger. Frères et sœurs, c'est une grâce particulière que quelqu'un un jour que vous avez rencontré a pu ouvrir la bouche et vous partager l'Évangile. Ouais. Je vais vous raconter mon témoignage rapidement, je ne rentrerai pas dans tous les détails, je ne vous parlerai pas de ma vie de péché, ça ne fortifiera pas personne et puis ça ne fera pas grandir personne. Mais je vais vous parler du moment où, moi, il y a un chrétien qui a osé ouvrir la bouche et que, pour la première fois de ma vie, j'ai entendu l'Évangile. Moi, je viens d'un milieu catholique. Alors, je viens d'un milieu catholique d'une famille de 8 enfants. Je suis l'aîné de la famille de 8 enfants. Et disons que ma mère a été choyée parce que j'étais le mouton noir des 8. Et je dirais que ma mère a négligé d'élever les 7 enfants qui ont suivi pour s'occuper de moi parce que j'étais un enfant terrible. J'étais terrible, j'étais intenable, quoi. Ouais. Je voulais faire ce que je voulais, et j'étais intenable. Et à 5 ans, j'ai fait ma première fugue, et la police est venue me ramener à la maison à l'âge de 5 ans. J'étais intenable, vraiment intenable. Et j'ai eu une mère extraordinaire, et je rends grâce à Dieu d'avoir eu une mère qui a pu s'occuper de moi, qui est venue me chercher dans les bandes de garçons avec qui je me tenais, qui est venue me chercher, qui a persévéré, et qui a réussi finalement par la grâce de Dieu à me garder sur le droit chemin. savez, mon père et ma mère, eh bien, quand on me mettait en punition dans ma chambre à 12-13 ans, eh bien, moi, je sortais par la fenêtre et je me sauvais. Et je suis content de ne pas avoir vécu avec dans l'époque des psychologues, parce que les psychologues, je me serais joué d'eux, je les aurais manipulés. J'étais un grand manipulateur, finalement. Mais heureusement, j'ai eu des parents qui... Et j'avais besoin de ça. Et quand je rentrais à la maison, mon père, il n'avait pas oublié, je m'étais sauvé par la fenêtre. Il m'attendait et il me parlait assez sévèrement, merci. Et tout ça, bien, ça m'a permis de vivre en banque jusqu'à l'âge de 18 ans. J'ai été élevé dans le milieu le plus criminalisé de Montréal. Et Dieu, encore une fois, m'a gardé. J'ai des copains qui ont été, qui sont morts à travers des règlements de compte, qui ont eu des assassinats avec les gens avec qui je me tenais. Mais à chaque fois qu'il y avait un mauvais coup qu'il devait faire, eh bien, moi, je restais à l'écart. Et c'était l'éducation que j'avais reçue de mes parents qui m'empêchait d'aller faire les mauvais coups avec eux. Et dans le quartier dans lequel j'habitais, soit que tu devenais un bandit, ou soit tu rentrais dans la police. Et moi, je suis devenu, par la grâce de Dieu, je suis devenu policier. Et tout en connaissant la magouille et tout ça, eh bien, le Seigneur m'a fait une grâce particulière, c'est d'entrer dans la police. Et pourquoi je suis entré dans la police? Parce que dans mon cœur, j'ai toujours eu soif de justice. Et la police, je trouvais que c'était un lieu où je pouvais m'épanouir à travers ça. Et finalement, après plusieurs années dans la police, je me suis aperçu que j'avais travaillé pour le ministère de l'injustice, parce que j'ai compris que chez les hommes, il y avait deux justices, celle du riche et celle du pauvre. Et Dieu connaît nos cœurs et Dieu connaît aussi notre soif, connaît notre besoin de lui. Et ça faisait 3 ans que je vivais en concubinage avec une femme. Et finalement, j'ai décidé de quitter la police. J'avais parti une entreprise et j'avais décidé de quitter la police avant de faire des bêtises, parce que j'étais frustré de voir qu'il n'y avait aucune justice. Et je cherchais, j'avais soif de justice. Et c'est bizarre, hein? J'étais en recherche, mais je ne le savais pas. J'étais devenu végétarien. Et je n'ai rien contre les végétariens. Moi, je parle pour moi. Hein? Chacun devient végétarien pour ses raisons. Mais moi, j'étais en recherche finalement d'une purification. Purification du corps. C'est un bon début, hein? Parce qu'après, il reste l'âme, mais ça, c'est plus difficile. Mais c'était purification du corps. Et mon commerce, eh bien, c'était de faire des inventaires dans les maisons pour protéger les gens quand il y a un vol ou un feu, pour être bien payé, bien réglé par les assureurs. Et ça me permettait d'entrer en contact avec des gens. Donc, j'allais dans les maisons, j'allais proposer mon service. Et puis, quand des gens disaient oui, je faisais l'inventaire. Donc, je voulais passer 4-5 heures avec les gens. Et il y avait un système d'abonnement. À chaque année, je retournais chez les gens pour rajouter les nouveaux articles qu'ils avaient achetés et enlever sur la liste d'inventaire les articles qu'ils étaient débarrassés. Et il y a un gars, eh bien... Vous savez, moi, j'ai travaillé au service de renseignement dans la police. Et au service de renseignement, on donne des cours et au bout de 2 à 5 minutes, en principe, tu es capable de savoir à peu près devant toi quel genre de personne que tu as. À 80 % tu peux définir un peu quel genre d'individu que tu as devant toi. Et le Seigneur, il me connaît bien. Il me connaît, c'est incroyable. C'est un client et ce client-là, c'est un chrétien évangélique. Je dirais que c'est le premier chrétien évangélique que j'ai rencontré dans ma vie. Lui, il était à peu près haut comme ça. Hein? Alors, je ne m'en suis pas méfié, mais pas du tout. Hein? Mais pas du tout. Je n'ai même pas pensé de l'analyser. Je me suis dit, il n'est pas dangereux pour moi, lui. Hein? Ouais. Mais ce que je ne savais pas, dans le 1-1 pour évangéliser, c'était un des tops. Hein? Ouais. Il savait comment t'amener la parole. Il savait comment bousculer ton cœur pour que tu t'amènes à te poser des questions. Et j'étais dans son salon avec lui. Et il commence à me poser des questions sur la vie. Moi, en tant qu'ancien catholique, j'ai 68 ans, donc j'avais appris mon catéchisme par cœur. Alors, j'y répondais à travers mon catéchisme. Et ça faisait 2 heures des questions, des réponses, je répondais à travers mon catéchisme. Et à un moment donné, il me dit, un jour, tu vas mourir. Je dis, c'est vrai. Et tu vas comparaître devant Dieu. Alors, je dis, c'est vrai, ma religion me dit que je vais comparaître devant Dieu. Et il dit, Dieu va te poser une seule question. Ah, j'ai dit, laquelle? Là, j'avais hâte de lui répondre parce que ça faisait 2 heures que je lui répondais du tac au tac. Il m'a dit, Jacques, donne-moi une seule bonne raison pour laquelle je devrais te laisser rentrer au ciel. Ah, ben, j'ai dit, écoute, je n'ai pas été si mauvais que ça. Ben, il dit, écoute, je vais te poser une deuxième question. Qu'as-tu fait de mon fils Jésus-Christ pendant tout le temps que tu as été sur la terre? J'ai dit, ben écoute, je veux dire que j'ai donné de l'argent aux pauvres de temps en temps. Je ne suis pas demandé si ça va donner de l'argent aux pauvres. Je t'ai demandé, qu'est-ce que tu as fait de Jésus? Ben, je veux dire, écoute, je n'ai pas été si méchant, quoi. J'ai quand même pas, hein, je ne suis pas un bandit. Je ne suis pas demandé si ça avait été méchant ou si c'était un bandit. Qu'est-ce que tu as fait de mon fils Jésus? Mais là, je ne sais pas, moi, j'ai fait de la boxe jeune. Hein? J'ai déjà reçu des coups qui m'ont vu voir les étoiles tourner autour de moi. Et là, ben, devant ton adversaire, tu ne veux pas montrer qu'il t'a touché parce qu'il va continuer. Hein? C'est normal. Hein? C'est un principe biblique aussi. Hein? Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Hein? Et là, j'ai commencé à vaciller dans mes pantalons. Et je pensais perdre connaissance devant ce gars-là. Mais je ne voulais pas perdre la face et je me retenais, je durcissais mes jambes. Et j'ai dit, il s'appelait Réal. J'ai dit, écoute, Réal, à quelle place que je peux trouver ma réponse? Et lui, il dit, ben, tu vas dans une librairie, tu vas t'acheter une Bible et tu lis la Bible. Ouais, mais en tant que catholique, je savais que la Bible n'a pas trois pages. Hein? Et j'ai dit, où je peux trouver ma réponse? Oh, il dit, lis l'Évangile de Jean, tu vas te trouver. OK. Alors, j'ai dit, écoute, je vais aller acheter une Bible, je vais lire l'Évangile de Jean, et le jour où je vais avoir ma réponse, je vais venir te la dire. Et le Seigneur était bon pour moi, parce que je ne méritais vraiment pas que le Seigneur se révèle à moi. J'ai vraiment une vie de débauché, j'ai vraiment une vie épouvantable. Je suis vraiment, je pourrais dire comme Paul, je suis le pire des pécheurs, et Dieu a eu pitié dans sa grâce de moi, quoi. Et j'ai commencé à faire ce travail de recherche en lisant la Bible. Et dans sa grâce, les nouveaux clients que j'avais, c'était des chrétiens, c'était bizarre, hein? C'était des chrétiens. Et on me racontait un petit bout. Je posais des questions, tout innocent. Je posais des questions parce que je ne voulais pas perdre la face. Alors, on me donnait un indice, un autre indice, ainsi de suite. Et à un moment donné, je commence à lire ma Bible. Et là, j'étais fatigué de lire l'Évangile de Jean. Ça faisait 5-6 fois que je le lisais. Et plus je le lisais, moins je comprenais. Et moi, je comprenais, c'est normal, parce que je cherchais, moi, à comprendre, à donner la réponse à cet homme-là avec pas avec mon cœur, mais avec ma tête. Je cherchais avec mon intelligence. Et un soir, je suis dans mon lit, et avec ma femme, ma femme a lu un roman, et moi, j'étais en train encore de... Je venais de finir l'Évangile de Jean, et je dis à ma femme, je dis, moi, j'abandonne, j'ai dit, je comprends rien. Je comprends rien, puis je lis, moi, je comprends. Elle m'a dit, est-ce que c'est écrit en français? Ben, je dis, oui. J'ai dit, plus je lis, moins je comprends. Elle a dit, voyons, passe-moi ça, c'est écrit en français. Alors, elle commence à lire l'Évangile de Jean, chapitre 1. Ma femme, elle était athée, hein? Alors, elle commence à lire. Moi, j'étais là, je la regardais. Puis, c'est pas facile, hein? Et elle me dit, ça, c'est la vérité. Aïe, 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 aïe. Ça, Jacques, c'est la vérité. Chapitre 1. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu as vu que j'ai pas vu? Elle avait entendu l'Évangile à l'âge de 7 ans. La semence qui avait été déposée dans son cœur. La flamme qui avait été déposée dans son cœur à l'âge de 7 ans, dans un camp d'été. En lisant l'Évangile, Dieu, le souffle, a allumé un feu dans son cœur. Je n'ai jamais été capable de revoir ma Bible. Ma femme, elle a continué à lire sa Bible. Et de fil en aiguille, Dieu nous a présenté des chrétiens, on a continué à faire notre démarche jusqu'au jour où, et vous allez penser que j'exagère, mais je vais vous raconter. On va chez une cliente et un jeune couple de chrétiens. On va chez ce couple et ma femme est en train de faire l'inventaire avec une équipe. Alors je dis à ma femme, je dis, écoute, je vais aller rencontrer quelqu'un pour lui offrir un contrat et que si je termine rapidement, puis que tu, en passant, je vois ta voiture et chez cette cliente-là, je viendrai te trouver. Alors, effectivement, ma femme est toujours en train de faire le travail. Et je rentre, moi, je sonne, je rentre. Et puis, pendant qu'elle faisait l'inventaire, moi, je me promenais, puis je regarde dans la bibliothèque, je vois une Bible, une concordance, quelques livres chrétiens. Et je fais mon innocent. Moi, je suis toujours en recherche. Hein. Et j'ai dit, vous lisez la Bible? Elle dit, oui, pourquoi, vous aussi? Ben, j'ai commencé. Ah! Venez avec moi dans la salle à manger. On va parler du Seigneur ensemble, pendant qu'eux autres, ils font le travail. Mais là, j'ai tombé sur quelqu'un qui était chaud et brûlant, hein. Alors, je me suis assis, vous ne croirez pas, hein, je vous raconte, là. Vous savez qu'une table de salle à manger, c'est assez grand, en principe. Hein. J'étais assis au bout, elle a commencé à me témoigner de Jésus à ce bout-là. Hein. Elle était tellement zélée, hein. D'abord, je n'étais pas capable de placer un mot parce qu'elle n'arrêtait pas de parler. Elle a monté à genoux sur la table, hein. À genoux sur la table, elle s'est approchée tout en me témoignant. Et là, j'étais dans ma chaise, et là, elle est arrivée tout près de mon visage. Là, j'étais obligé de me reculer parce qu'elle était là au bord de la table, à genoux sur la table. Alors, elle me dit, je vous invite à venir à l'église dimanche. On fait une pièce de théâtre, les 8 péchés capitaux. Elle dit, je fais un des péchés. Alors, moi, pour m'en débarrasser, hein, j'ai dit, ben, oui, hein, oui, on va y aller, hein, pas de problème. Et là, on y est allé. Et l'accueil, j'ai réalisé une chose, hein, l'accueil dans une église, c'est super important, super important. On a été reçus par deux personnes à la porte qui nous ont salués. Et puis, qui nous ont demandé si on avait été invité par quelqu'un ou si on était venu par nos propres moyens. Et on avait dit qu'on avait été invité par la famille Mille Jours. Hein, ils ont dit, OK, ils vous ont réservé deux places, venez avec moi. Ils nous ont accompagnés, c'est une église de 700 personnes. Ils nous ont accompagnés, ils nous ont placés avec eux. Et là, on a entendu, oui, pas juste les sept péchés capitaux, mais on a entendu aussi la prédication de l'Évangile. Et ce qui est important, il n'y a pas juste l'accueil. Hein. Eux, ils nous avaient invités. Et après, ils savaient qu'on serait perturbés. On vient du monde. Hein. Il faut se mettre à la place des gens. On vient du monde. C'est la première fois qu'on entend un langage évangélique. Alors, ils nous ont dit, écoutez, on aimerait vous inviter à la maison prendre une tasse de café. On aimerait avoir votre opinion sur ce que vous avez entendu ce matin, sur l'ambiance qu'il y avait dans cette église. Pour la première fois de notre vie, on prenait un dîner avec des chrétiens évangéliques. Pour la première fois de notre vie, on a passé une partie de l'après-midi avec des chrétiens évangéliques. Alors, ils nous ont dit, écoutez, si ça vous intéresse, la semaine prochaine, vous pouvez venir faire un tour à l'église. Et la semaine d'après, on est allé à l'église, semaine après semaine. Et la cinquième semaine, eh bien, eux, ils avaient un culte le matin et un culte d'évangélisation le soir. Et on est allé au culte d'évangélisation, il y avait un couple de missionnaires qui est venu, qui a amené son message. Et là, il y a eu un appel et on a eu l'impression que parmi les 700 personnes, on était les deux seuls à qui il avait adressé son message. On avait l'impression qu'il avait les yeux fixés sur nous, alors que il s'adressait à tout le monde, finalement. Et on a levé la main tous les deux. Mais moi, j'étais un homme d'affaires. Hein. J'avais un commerce. Hein. Ouais. Quand tu fais du noir, hein, c'est pas facile. C'est facile de lever la main. Hein. Et quand tu fais du noir, là, le diable t'agace. Hein, il t'attaque. Hein. Et ma femme, elle me regarde, elle me dit, on était tous les deux debout, on avait levé la main. C'est facile de lever la main, hein? On a juste à sortir un pistolet, je vais tout vous faire lever la main si je veux. Hein? C'est facile de faire lever la main. Hein?
Ouais.
Mais de dire à la personne, viens en avant maintenant.
Ouais.
Viens en avant. Sortir de sa chaise, là. Déjà, on doit renoncer à beaucoup de choses avant de sortir de notre place hein, et venir en avant.
Ouais.
Et moi, là, c'était... Parce que moi, quand j'allais voir des clients qui me payaient cash, la facture, je signais promotion. Cash dans ma poche. Et la promotion, là, je la réclame au gouvernement à la fin de l'année comme dépense. J'étais vraiment un voleur, un bandit. Hein?
Ouais.
Et là, j'entendais, c'est après que j'ai réalisé, j'entendais la voix du diable qui disait, pense à tout ce que tu vas perdre si tu avances. Pense à tout ce que tu vas perdre si tu avances ce soir. Pense à tout ce que tu vas perdre.
Ouais.
Pas à tout ce que tu vas gagner. Hein? À tout ce que tu vas perdre. Et j'aurais perdu ma femme parce qu'on vivait en concubinage ensemble. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas habiter ensemble. Et si elle avance, moi, c'était terminé.
Ouais.
Et finalement, mon combat, je me suis rassis, mon combat, c'était... Je savais l'argent, je calculais l'argent que je perdrais. Hein.
Ouais.
Et ma femme me dit, tu viens ou tu viens pas? Je dis, non, non. Moi, je dis, écoute, laisse-moi tranquille, attends. Et elle a voulu sortir de la rangée pour y aller. Je l'ai retenue par son manteau. Je savais que je la perdrais si elle la partait.
Ouais.
Et finalement, j'ai dit, Seigneur, j'abandonne mon ancienne vie. Je te fais confiance. Et on est allé en avant. Et c'était béni parce qu'on est venu en avant, il y avait des conseillers. Et l'homme, il m'a dit, qu'est-ce que tu as compris pour avoir levé la main? C'est important, hein? Pas lever la main uniquement sur les sentiments, ni uniquement rationnellement, mais qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce qui t'a amené à t'avancer? Qu'est-ce que tu renonces à quoi à t'avancer? Et là, j'ai pu m'exprimer librement. Et il a pris note de... Et c'est important aussi qu'on le fasse quand on invite quelqu'un à l'église, je pense en tout cas. C'est qu'il a pris mon nom, mon numéro de téléphone, il m'a donné un évangile de Jean. Il a dit, écoute, lis l'évangile de Jean chez toi. Si tu as des questions, écoute, je t'appelle, si tu as des questions, bien, je suis prêt à répondre. Et il m'avait appelé le mercredi, j'étais débordé de travail, trois jours après. Et je lui ai dit, écoute... J'ai eu trop de travail, j'ai pas eu le temps de lire. Pas de problème, écoute, on se voit dimanche. Et dimanche après dimanche, on est allé. Et finalement, pour en arriver un jour à faire la faculté de théologie, avoir le goût de faire la faculté de théologie, et ainsi de suite, m'être rendu devant vous aujourd'hui. Et Dieu fait encore des miracles dans nos vies aujourd'hui. Et c'est important de bien saisir que Dieu est fidèle à ses promesses, que Dieu est vivant, que Dieu va encore accomplir des miracles dans notre vie. Vous savez, frères et sœurs, on chante souvent ou on prie souvent que là où deux ou trois sont rassemblés au milieu de nous, eh bien, Jésus est présent au milieu de nous. Hein? Que là où deux ou trois sont rassemblés en son nom, il est présent au milieu de nous. Mais quand Moïse, vous savez, Moïse, dans l'Exode chapitre 33-34, quand il est dans la présence de Dieu, Moïse, il ne se contente pas seulement de la présence de Dieu. Et l'Église ne doit pas se contenter d'avoir uniquement la présence de Dieu dans son lieu. Moïse dit après à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. » Et l'Église aujourd'hui a besoin de voir la gloire de Dieu se manifester au milieu de son peuple. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est les attributs de Jésus-Christ. Ouais. Quand Moïse demande à Dieu de lui manifester sa gloire, il met sa main devant, qu'est-ce qu'il voit? Moïse, il fait voir sa bonté, il fait voir sa miséricorde, il fait voir sa compassion, il fait voir son amour. Et on a besoin de voir ça dans nos églises aujourd'hui. Crie à Dieu, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, on a besoin de voir des miracles. La première prière des chrétiens, dans le livre des Actes, au chapitre 4, c'est « Seigneur, toi qui as créé le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Accomplis des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. » Et on a besoin de s'approprier de cette parole, de cette prière aujourd'hui, pour voir la gloire de Dieu se manifester au milieu de son peuple. Ouais. Et si on veut prier cette prière, « Seigneur, manifeste ta gloire au milieu de ton peuple », on a besoin d'abord de s'examiner. Est-ce que notre vie, elle est droite devant le Seigneur, frères et sœurs? Est-ce que notre vie, elle est droite? Est-ce que votre vie, ma vie, est droite devant le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui peut empêcher Dieu de manifester sa gloire au milieu de son peuple? Ouais. On a parlé que Dieu pleurait dans le ciel aujourd'hui. Hein? Ouais. Quand Jésus s'est fait crucifier. Dieu doit pleurer aussi aujourd'hui quand il voit la condition de son Église à travers le monde, surtout dans le monde occidental. Ouais. L'Église, elle est là uniquement pour une seule et unique raison. Amener des âmes à Jésus-Christ. Amener des âmes à Jésus-Christ. Il n'y a aucune ASBL à l'extérieur du monde qui peut le faire. C'est la mission que Christ a donnée à ses apôtres avant de mourir, avant de quitter dans Matthieu chapitre 28. Amener des âmes à Jésus-Christ. Établir des contacts, partager. Simplement démontrer ce que Christ a fait dans nos vies. Dans Luc chapitre 9, il y en a un qui est possédé, Jésus le délivre des démons. Il veut suivre Jésus, Jésus lui dit non. Non. Retourne dans ta famille et va leur raconter ce que le Seigneur a fait dans ta vie. C'est ça l'Évangile. Hein? C'est ça l'Évangile, frères et sœurs. Ce n'est pas des méthodes, ce n'est pas des versets après par cœur. Va raconter dans ta famille ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Va leur raconter le miracle de la nouvelle naissance que Dieu a opéré dans ta vie à travers le message de l'Évangile. Va raconter les changements que Dieu a opérés dans ta vie depuis que tu es né de nouveau. Ouais. Va raconter. Ouais. Tu étais un colérique, Dieu t'a donné la maîtrise de soi, de toi. Tu calomniais avec ta bouche, tu médisais avec ta bouche, tu utilisais ta langue pour maudire les gens. Va raconter aux gens maintenant, depuis que tu es né de nouveau, que Dieu te bénit. Bénis maintenant à travers ta bouche. Ce sont des paroles de bénédiction que tu donnes aux gens que tu rencontres. Après ça, la méthode, là, elle n'a pas changé. Hein. C'est le Saint-Esprit qui doit agir à travers moi, à travers vous. Hein. Ouais. La méthode n'a pas changé. Ouais. Il faut arrêter de prendre des méthodes par cœur. Hein. Il faut avoir la méthode parfaite. Hein. Si notre cœur n'appartient pas à Dieu, on va nulle part, c'est Dieu qui convertit. Hein. Ouais. Et l'Église a besoin de ça aujourd'hui. Ouais. L'islam n'est pas plus... L'islam n'est pas plus puissant que le christianisme. Hein. C'est simplement que l'Église de Christ aujourd'hui, eh bien, elle ne remplit pas le rôle pour lequel elle était appelée. Et les puissances des ténèbres sont en train de sortir du pays. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus puissant que le Saint-Esprit? Il n'y a rien de plus puissant que ça. Et on va voir rapidement, hein, parce que je ne veux pas vous garder longtemps, mais on va voir rapidement. Regardez, la promesse, pourquoi le Seigneur... Écoutez, peut-être que je terminerai la prochaine fois, Dieu voulant, Gino. Hein? Mais on va faire le petit bout qu'on peut faire ce matin. Okay. Je ne vais pas vous laisser avec ça. Pourquoi le Seigneur a décidé, pourquoi Dieu a choisi que nous puissions partager sa gloire? Pourquoi le Seigneur a choisi que nous puissions être avec lui pour l'éternité? Regardez, Ésaïe chapitre 43-4. Allez dans Ésaïe chapitre 43-4. C'est un cadeau que je vous fais ce matin. C'est un cadeau que le Seigneur vous fait ce matin. Ouais. Je ne sais pas quelle image vous avez de vous-même. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de complexés ici ce matin, mais ça, c'est un verset que vous devriez apprendre par cœur. Par cœur, par cœur, par cœur. Pourquoi Dieu s'intéresse-t-il à nous? Pourquoi il n'est pas mort pour les animaux? Pourquoi il n'est pas mort pour les fleurs? Pourquoi il n'est pas mort pour les nuages? Regardez, on a la version, on a la réponse ici. Ésaïe 43, 4, « C'est que tu as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup pour moi, je t'aime. » Oh, extraordinaire, non? Maintenant, vous savez quel prix que Dieu a pour vous? Il y en a qui n'aiment pas le message de la croix, hein, mais on est obligé d'y aller. Hein? Vous pouvez dire que Dieu est amour, mais ce n'est pas de l'évangélisation, ça. Mais parce que Dieu est amour, là, ça veut dire, oui, mais il m'aimait en quoi? Vous devez revenir tout de suite à la croix si vous parlez de Dieu qui est amour. Hein? Oui. Ouais. Dieu déteste le péché, mais il aime le pécheur. C'est ça l'Évangile. Ça prend les deux, hein? Ouais. Et quand on regarde à la croix, là, eh bien là, on voit l'amour de Dieu qui s'est manifesté pleinement en Jésus-Christ. Ouais. Pleinement en Jésus-Christ. Et aujourd'hui encore, cette croix, elle est assez puissante pour nous libérer de tout ce qui est esclave. Je vous dis, je ne partagerai pas de péché avec moi, hein? Je vais vous en donner un, moi. Moi, là, à travers la police, hein, à un moment donné, dans une escouade de la moralité, quand on saisissait des cassettes pornographiques, on devait les visionner toutes une par une pour voir quelles seraient les charges qu'on pourrait porter devant les tribunaux. Alors, ça vous donne une idée comment ça nous aide à garder un cœur propre, hein? Mais je suis devenu esclave de la pornographie pendant un certain temps. Et ça m'a pris la délivrance du Seigneur pour me libérer de ça. Ouais. En Jésus-Christ, Dieu est capable de libérer quelqu'un de tous les péchés imaginables. Tous les péchés imaginables. La croix est encore suffisamment puissante pour nous libérer de tout ce qui nous rend esclaves et qui nous empêche, et qui empêche Dieu de manifester pleinement sa gloire en Jésus-Christ dans nos vies. Est-ce que vous réalisez que Dieu va accomplir des miracles et des prodiges à travers vous, frères et sœurs? Est-ce que vous vous réalisez ça? Avez-vous la foi suffisante pour croire que c'est vrai? J'ai raconté que j'avais un cancer il y a une dizaine d'années. On me donnait 6 mois à vivre. J'ai perdu 22 kilos en 3 semaines. Un cancer qui était inopérable. Mon médecin m'avait dit « Je t'enterre dans 6 mois. » Mais Dieu en avait décidé autrement. Pourquoi? Parce que j'avais un péché. Et ça, c'est une épreuve. Et j'ai dû rendre grâce à Dieu dans l'épreuve. Parce que moi, Jacques Hudon, je m'étais placé au-dessus de Dieu. Je refusais de pardonner à quelqu'un qui m'avait fait du mal en tant que chrétien. Vous imaginez? En tant que pasteur. Et Dieu, à plusieurs reprises, m'avait dit, « T'as pas pardonné? T'as pas pardonné? T'as pas pardonné? » « Ben oui, Seigneur, j'ai pardonné. » Facile ici, hein, dire, « T'es pardonné, mais ici, ouais, hein? » Ouais. Et Dieu, après plusieurs versements, paf, a permis qu'un cancer vienne s'installer. Et un soir à genoux, j'entends le Seigneur qui dit, par son esprit, le non-pardon et l'amertume, c'est comme un cancer qui ronge. Ah, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Va voir la personne qui t'a fait du mal et à qui tu n'as pas pardonné. Sinon, je te rappelle à moi. Je suis allé voir la personne, j'ai demandé pardon. Quand je me suis remis à genoux pour prier, j'ai entendu l'esprit qui m'a dit, je t'ai guéri. Je t'ai guéri, fini. Demandez-moi pas pourquoi Dieu, moi, me guérit, qui n'en guérit pas d'autres. C'est Dieu. Dieu promet qu'il peut guérir toutes les maladies, mais il ne dit pas qu'il va guérir toutes les maladies. C'est une grâce qu'il m'a faite. Ouais. Et à chaque fois que je suis capable de le partager, bien, je rends gloire à Dieu pour sa guérison. Oui, voilà. Mes frères et sœurs, quand on ne pardonne pas, Dieu qui pardonne tous les péchés, on est en train de se placer au-dessus de Dieu. Vous imaginez? C'est incroyable, quoi, pour qui je me prenais. Et Dieu m'a donné une sévère leçon. Et je bénis le Seigneur pour ça. Ouais. J'ai un ulcère d'estomac, plutôt du duodénum, condamné à prendre des médicaments toute ma vie. J'ai dit, Seigneur, dans ta grâce, je veux que je te demande simplement de me guérir pour que je rende témoignage de ça. Je ne vais plus prendre de café, plus prendre de chocolat jusqu'à la fin de mes jours. Dieu m'a guéri. Ouais. Demandez-moi pas pourquoi il m'a guéri, je ne le sais pas. Mais Dieu m'a guéri, il a eu pitié de moi. Aujourd'hui, je continue à boire 7 cafés par jour. Je n'ai pas de problème d'estomac. Dieu m'a guéri. Je vais vous donner un autre miracle que Dieu fait dans ma vie. Ouais. C'est peut-être pas un endroit charmant à dire, mais je vais le dire. À un moment donné, j'étais à la toilette et pour la première fois de ma vie, j'ai eu les hémorroïdes, Seigneur. Et j'ai prié, Seigneur, j'étais jeune chrétien. Seigneur, Guéris-moi, je vais te rendre gloire à chaque fois, je pourrais le dire. Dieu m'a guéri. Demandez-moi pas pourquoi Dieu m'a guéri, je ne sais pas. Mais par contre, je sais une chose. Je vais être triplement redevable devant Dieu pour les grâces qu'il m'a accordées pour la guérison.
Ouais.
Triplement redevable. Alors ce matin, je peux vous dire une chose. Dieu guérit toutes les maladies. Mais il ne me promet pas de guérir tout le monde de leurs maladies. On doit accepter sa volonté. Dieu sait à quel moment il doit nous reprendre et Dieu sait à quel moment il doit nous garder. Et tout cela, c'est pour sa gloire. De toute façon, en tant que chrétien né de nouveau, on devrait être comme l'apôtre Paul. Ce que nous préférerions, c'est d'être plutôt avec le Seigneur, mais pour l'instant, on est avec les frères et les sœurs pour les faire grandir, spirituellement parlant. La promesse de sa présence. Regardez, nous avons tellement du prix à ses yeux que Dieu promet d'être présent à nos côtés tous les jours. Dans Ésaïe 41:10, il dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens te donner du courage. Je viens à ton secours et je te soutiens. Je te protège avec ma main puissante et victorieuse. » Frères et sœurs, est-ce que vous êtes capables, est-ce que vous êtes emparés de ce verset? Est-ce que vous êtes emparés de cette parole? Moi, je trouve une chose en tant que pasteur, je vais être honnête avec vous, Sans jugement, je trouve qu'un des gros problèmes de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est la méconnaissance de la parole de Dieu. Je ne dirai pas dans quelle Église, ni qui, mais un dirigeant d'Église, alors que je demandais de tourner dans 1 Corinthien, eh bien, il cherchait 1 Corinthien dans l'Ancien Testament, quoi. C'est quelqu'un qui fréquente l'Église depuis 30 ans. C'est quelqu'un qui était diacre de l'Église depuis 30 ans. Frères et sœurs, le peuple de Dieu a une méconnaissance de la parole de Dieu. Si on a une méconnaissance de la parole de Dieu, comment voulez-vous qu'on puisse s'approprier les promesses de Dieu? Comment voulez-vous qu'on puisse connaître les promesses de Dieu? Comment voulez-vous que les promesses de Dieu s'accomplissent dans notre vie? Frères et sœurs, moi, je ne suis pas le gars le plus cultivé, La seule chose que je ne voulais pas faire, ça faisait partie de mon témoignage, je ne vous en ai pas parlé, la seule chose que je ne voulais pas faire, moi, c'était de devenir pasteur. Il n'y a rien de pire que de travailler avec des gens. C'est vrai, C'est compliqué, des gens, Une usine, ça va, Tu es devant une machine. Si tu as le feu ou derrière, ben, tu lui donnes un coup de pied. Il n'y a pas de problème, elle ne réagira pas, la machine, Mais tu rentres dans l'église, tu es pasteur, si tu n'as peut-être pas oublié de regarder une personne en rentrant, tu peux recevoir un appel le mercredi en disant, « Pasteur, avez-vous quelque chose contre moi? » Pourquoi? Ben, vous ne m'avez pas regardé dimanche en rentrant, Il y a 150 personnes, j'étais raté de l'œil, mais c'est ça les êtres humains, On a besoin d'énormément d'attention, Et le Seigneur, à travers sa parole, il cherche à attirer notre attention. Il veut qu'on vive dans la sainteté. Il veut qu'on vive attaché à lui. Il veut qu'on se rappelle qu'on lui est redevable pour l'éternité de ce qu'il a accompli pour nous. Voilà pourquoi, quand on rencontre le Seigneur Jésus au ciel, il vient nous accueillir les bras ouverts, avec les traces de ses clous dans ses mains, dans ses pieds. Pour qu'on se rappelle que si on met un pied au ciel, c'est aucunement à cause des œuvres qu'on a faites, mais grâce à l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Et pendant toute l'éternité, on verra Jésus avec ses mains et ses pieds cloués. Pour nous rappeler que si on partage son trône, que si on est en habite sur cette nouvelle terre et ses nouveaux cieux, c'est grâce à ce que le Fils a accompli sur la croix. On est redevable de manière incroyable à Dieu. Incroyable à Dieu. À chaque fois que je viens prêcher, avant de prier, et que quand je prie avant de venir prêcher, je répète cette prière dans Actes chapitre 4. Seigneur, toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, donne à ton serviteur indigne, incompétent, donne à ton serviteur d'annoncer ta parole avec puissance. On a un Dieu extraordinaire. On est un Dieu merveilleux. On est un Dieu qui ne nous doit rien. Dieu n'est pas obligé de nous guérir. Dieu n'est pas obligé de pourvoir à nos besoins. Dieu n'est pas obligé de rien nous donner. Mais on fait affaire avec un Dieu de grâce. Un Dieu qui a compassion. Un Dieu qui est bon. Un Dieu qui nous aime et qui ne se lasse pas de nous aimer. Le mot « amour » dans l'Ancien Testament signifie que Dieu est en amour avec sa créature. En amour avec sa créature. Peut-être que pour certains, ça fait longtemps que vous n'êtes plus tombé en amour avec quelqu'un. Mais quand on est en amour avec quelqu'un, nos pensées sont omnibulées par cette personne. n'y a plus rien qui existe. Hein? On le sait quand on a eu 18, 19 ans, hein? Ouais. Qu'on a flashé sur une fille. Hein? Ouais. Ah, ça, c'est ma femme. Et là, il peut te passer 26 belles filles derrière toi, derrière elle, tu ne les vois plus, c'est elle, c'est elle. Frères et sœurs, Dieu est en amour avec vous. Dieu est en amour avec chacun de vous. Ouais. C'est pas merveilleux. C'est quelque chose, ça. Et Dieu, parce qu'il est fidèle, contrairement aux hommes, il ne vous trompera jamais. Jamais. Nous, ça peut nous arriver d'être en adultère avec le Seigneur, mais Dieu jamais ne nous trompera. Ça fait partie de la fidélité de Dieu. Cette fidélité, elle est immuable. Alors, je vais quand même terminer le premier point, et après ça, pour une prochaine fois, Dieu voulant. Ouais. Face au danger, au malheur, à la souffrance, à la pauvreté, ou même face à la mort, nous pouvons compter non seulement sur l'amour de Dieu, sur sa promesse qu'il sera toujours présent, mais sur sa promesse qu'il va intervenir. On a un Dieu aussi qui agit. Ouais. Et Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 20, « Sachez-le, je serai tous les jours avec vous, et ce, jusqu'à la fin du monde. » Frères et sœurs, trop souvent, nous passons à côté des choses essentielles pour des raisons très simples. Nous ne les voyons pas. Nous regardons ailleurs et notre vision spirituelle est faussée parce que nous ne regardons pas dans la bonne direction ou parce que nous ne nous adressons pas à la bonne personne. Un jour, le pasteur méthodiste John Wesley faisait route avec un homme qui vivait des moments difficiles et qui lui faisait part de ses doutes quant à la bonté de Dieu. Je ne sais que faire avec les doutes et les inquiétudes qui m'envahissent, lui confiait-il. Au même moment, John Wesley aperçut une vache levant la tête au-dessus d'un mur de pierre. « Savez-vous, demanda Wesley à son compagnon, pourquoi cette vache regarde au-dessus du mur? » « Non, dit l'homme qui était perplexe. » John Wesley lui dit, « La vache regarde par-dessus le mur parce qu'elle ne peut pas voir à travers le mur. C'est cela même que vous devez faire avec votre mur de difficulté. Regardez par-dessus sans vous y arrêter. » Frères et sœurs, la foi nous rend capables de dominer les circonstances et de regarder à Jésus au-dessus de tout. Je devais le dire, je le dirai la prochaine fois, frères et sœurs, notre problème en tant que chrétien, en tant qu'être humain souvent, c'est qu'on regarde aux circonstances et on se fait arrêter par les circonstances et on perd nos circonstances de nous voler notre joie et notre Père Jésus-Christ. Habituons-nous à regarder à celui qui est en contrôle de toutes les circonstances, et c'est le Dieu Tout-Puissant. Apprenons à regarder à celui qui est plus grand que les circonstances, à ce Dieu Tout-Puissant. Ouais. Les circonstances, encore une fois, que Dieu permet qu'ils surviennent dans nos vies, c'est encore une fois pour nous faire grandir et nous amener à ressembler davantage à la personne de Jésus-Christ. C'est uniquement ce pourquoi Dieu agit dans nos vies. Et à travers cela, Dieu veut se glorifier. Parce que plus on ressemble à Jésus-Christ, et plus Dieu se glorifie. Frères et sœurs, on a un Dieu, encore une fois, je le répète, un Dieu qui est extraordinaire. Paul écrit que Dieu a le pouvoir de faire. Pardon. Éphésiens chapitre 3, verset 20, je termine avec ce passage. Mais on enclenchera là-dessus, Gino, la prochaine fois, Dieu voulant. Et je terminerai mon témoignage. Regardez, Éphésiens chapitre 3, verset 20, ceux qui ont leur Bible. Il faut apprendre ce verset-là par cœur aussi. Par cœur, par cœur, par cœur. Dieu a le pouvoir, Dieu a le pouvoir, Dieu a le pouvoir de faire infiniment, de faire infiniment. Regardez votre verset. Infiniment plus que tout ce que nous pouvons demander ou penser. On demande quelque chose au Seigneur en prière, le Seigneur, il dit à travers l'apôtre Paul, écoute, je peux te donner plus que ça. Pourquoi tu te contentes juste de me demander ça? Tu prends une minute pour me demander des choses, ça va passer une demi-heure, tu t'imagines ce que j'aurais pu te donner? Ouais. Regardez le verset, apprenez Éphésiens chapitre 3, verset 20, c'est un verset, il faut apprendre par cœur. Dieu a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même pensons au moyen de la puissance qui agit en nous. Vous imaginez? On limite, écoutez, on limite la grâce de Dieu, on limite Dieu d'agir dans nos vies parce qu'on est trop gêné pour lui demander des choses, on a peur de le déranger. Mais si notre vie est droite devant le Seigneur, si on n'a rien à se reprocher, le Seigneur, il dit, écoute, je vais te donner au-delà de ce que tu me demandes, et je vais te donner au-delà de ce que tu penses que je peux te donner. Infiniment plus. Oui. Les mots sont importants ici. Dieu a le pouvoir de faire infiniment, à l'infini. À l'infini, il n'y a pas de limite pour Dieu pour déverser sa grâce chez ses enfants. Est-ce que vous savez qu'à travers John Wesley, Dieu, à travers un seul homme, Dieu a empêché l'Angleterre de connaître une révolution comme la France? À travers un seul homme qui s'est tenu debout? John Wesley n'avait rien à se reprocher devant le Seigneur. Rien. C'est un gars qui marchait dans la sanctification. C'est un gars qui marchait dans la vérité. Il était persécuté à chaque jour pour sa foi. Et ça faisait une journée qu'il n'avait pas été persécuté. Le matin, il se lève, il se met à genoux, il dit, « Seigneur, montre-moi si j'ai eu un manquement dans ma vie. » C'est fou, hein? Ouais. Parce que, Seigneur, hier, je n'ai pas été persécuté à cause de ma foi. Il a remis cette prière entre les mains du Seigneur, il est sorti dehors, il y avait un païen qui l'attendait avec une petite pierre, puis quand il est sorti, il a lancé une pierre, il l'a reçu en plein front. Il est rentré à l'intérieur, il a loué le Seigneur pour avoir répondu à sa prière. Frères et sœurs, permettez-moi de vous poser une question. J'espère qu'elle ne sera pas trop embarrassante pour vous, parce qu'elle l'a été pour moi. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas été persécuté à cause de votre foi? Ça fait combien de temps? Ça remonte à quand la dernière fois que vous avez été persécuté parce que vous avez parlé de la personne de Jésus-Christ et de sa croix? On aurait peut-être besoin d'un voyage de Pierre qui rentre dans l'Église et se les lancer une par une. Frères et sœurs, vous êtes appelés à partager cet amour que Dieu a déversé dans son cœur à travers la personne de Jésus-Christ. Ouais. Et je demande pardon au Seigneur parce que je suis loin d'être persécuté à cause de ma foi. Mais je peux vous confesser quelque chose. J'ai été beaucoup plus persécuté parce que j'évangélise. Par ceux qui habitent dans l'Église que par les gens de l'extérieur. Vous connaissez la règle du 50% avec Jésus? Deux seront dans un champ quand je reviendrai. Deux. Un sera enlevé, l'autre restera. Deux seront couchés dans le même nid. Un sera enlevé, l'autre restera. Les 10 vierges, 5 sont entrées, 5 sont restées dehors. Quand le Seigneur Jésus va revenir, 50% de ceux qui fréquentent l'Église vont rester dans l'Église et les 50 autres vont décoller. Il y a des chrétiens de nom dans l'Église, il y a des chrétiens nés de nouveau dans l'Église. Ça fait partie du contrat de Dieu. Il y a de l'ivraie, il y a du blé. Et Dieu veut nous amener tous au salut. Ouais. Le seul mandat pour lequel on est appelé après être sauvé, c'est de partager l'amour que Jésus a déversé dans nos vies. Et cet amour-là, il est souvent voilé si notre vie n'est pas en règle avec le Seigneur. Vous savez, après avoir rencontré le Seigneur Jésus, le verset le plus difficile à mettre en application après, « Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. » Tant aussi longtemps qu'un chrétien n'a pas fait ça, il est impossible pour lui de comprendre parfaitement le sacrifice que Jésus a accompli sur la croix. Le plus difficile, c'est de renoncer à nous-mêmes pour que Seigneur Jésus devienne le Seigneur de notre vie. Dans les années, il y a les 40 dernières années, on acceptait tout Jésus comme sauveur. Ça ne veut rien dire. Lisez le livre des Actes. On n'acceptait pas le Seigneur. On n'acceptait pas Jésus comme sauveur, mais comme Seigneur. S'il n'est pas le Seigneur de notre vie, on peut avoir levé la main parce qu'il pour nous sauver, mais s'il n'est pas le Seigneur de notre vie, il n'y a rien qui va changer dans notre vie. On va continuer à faire la même vie qu'on faisait avant. Quand on accepte le Seigneur Jésus, qu'on le reçoit dans nos cœurs, on lui remet notre vie. Il devient le Seigneur, c'est lui qui doit diriger notre vie. S'il dirige notre vie, Dieu manifeste sa gloire à travers ses enfants. Et ça, c'est un beau cadeau que Dieu nous donne, il n'est même pas obligé. Il peut dire, non, tu es sauvé maintenant, reste assis, bouge pas. Jésus va descendre, il va encore parler de l'Évangile. Il dit, je suis la lumière du monde, maintenant je monte en haut, vous êtes la lumière du monde. Vous savez, la lumière, il y a deux fonctions dans la lumière. Elle est éteinte ou elle est allumée. La question qu'on peut se poser ce matin, et je peux vous poser avant de terminer, est-ce que votre lumière est éteinte ou s'est allumée? Je ne porte pas de jugement, hein? Ça m'est arrivé que la mienne a été éteinte. Hein? Ouais. J'étais triste, hein? J'étais triste, parce que Dieu veut briller de tous ses feux dans nos cœurs, à chacun de nos cœurs. Frères et sœurs, rappelez-vous en terminant que vous avez du prix aux yeux de Dieu, que vous êtes précieux, et c'est pour ça que Dieu s'occupe de vous. C'est pour ça que Dieu veut vous combler de ses bienfaits. C'est pour ça que Dieu vous fait grandir en Jésus-Christ, parce que vous avez du prix à ses yeux, frères et sœurs. Parce qu'on a du prix à ses yeux. Parce qu'on a du prix à ses yeux, frères et sœurs.
Ouais.
Galates chapitre 2, verset 20-21. J'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. La vie humaine qui est la mienne maintenant, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui s'est donné, qui m'a aimé, qui a donné sa vie pour moi.
Ouais.
C'est ça votre vie, c'est ça ma vie, frères et sœurs. Et c'est vrai que c'est pas facile. On est en terrain miné. On est sur une terre qui ne nous appartient pas. Le diable est là, frères et sœurs. Il ne faut pas l'oublier, lui. Il est là. Il veut nous décourager.
Ouais.
Mais le Seigneur règne sur son peuple. Et vous êtes précieux à ses yeux. Et Dieu veut vous élever. Et Dieu vous élève pour qu'on puisse proclamer son évangile. Frères et sœurs, le Seigneur vous bénisse abondamment. Désolé d'avoir pris autant de temps pour prêcher, pour vous apporter cette parole. C'est ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur ce matin. Je ne sais pas si ça vous a fait du bien. Moi, ça m'a fait du bien parce que je n'avais pas tout préparé ça. Moi, ça m'a fait du bien. Je laisse une place au Saint-Esprit pour parler. Mais rappelons-nous que Dieu n'est pas mort pour des carottes. Dieu n'est pas mort pour n'importe qui. Dieu est mort pour des pécheurs qui ne méritaient pas d'être sauvés. Et dans sa grâce, il a eu pitié de vous, il a eu pitié de moi. Et dans sa grâce, il veut nous amener, en plus, à ressembler à la personne de Jésus-Christ. Et la personne ressembler à la personne de Jésus-Christ, c'est produire le fruit de l'Esprit. Produire le fruit de l'Esprit. Frères et sœurs, quand on réalise en lisant les Écritures jusqu'à quel point Dieu nous a aimés, on tombe en prière et on se dit, Seigneur, je ne sais pas comment tu fais me recevoir ce matin devant ton trône. Seigneur, je suis indigne que tu me reçoives, mais grâce au sang de Christ, grâce à son sacrifice, Seigneur, c'est sur cette base que je viens te rencontrer ce matin. Et je viens te demander pardon, Seigneur, parce que je ne suis pas la personne que tu voudrais que je sois. Je demande pardon, Seigneur. Pardon, pardon. Et vous sentez la main du Père. Ah. Je te pardonne. Pas magnifique? Ah. Je te pardonne. Je te pardonne. Je te pardonne. Et quand le Seigneur est dit, j'oublie. Le Seigneur, il est omniprésent, omnipotent, il ne peut pas oublier. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand le Seigneur dit, oublie? Quand on dit qu'on a pardonné à quelqu'un, qu'on oublie, ça veut dire que plus jamais on va ramener à la surface son péché du passé. Il y a combien de couples qui sont détruits? Parce que je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne, mais à la moindre dispute, on ramène quelque chose qui date de 20 ans. Ça mine un couple, ça. Et heureusement, le Seigneur ne veut pas nous miner. Hein? Il dit, je t'ai pardonné, j'ai oublié, plus jamais je vais te ramener à la surface ce que tu as fait dans le passé, c'est terminé. Ouais. Et bien, on se présente devant lui. Et là, on peut parler à notre Père céleste. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Seigneur. Dans le ciel, les anges te louent, les anges t'adorent jour et nuit. Que ta volonté soit faite, oui, que ta volonté soit faite sur la terre. Ça veut dire quoi aussi sur la terre? Moi, ton enfant, que je puisse faire ce que tu veux, parce que je suis encore sur la terre, que je puisse faire ta volonté. Amen.
Amen.
Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce ce matin, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui est merveilleux, un Dieu qui est grand, un Dieu qui est vivant, Seigneur. Et Seigneur, tu connais tous les besoins de chacun, Seigneur. Nous ne sommes pas là pour nous abaisser, Seigneur, aux yeux des hommes. Mais nous sommes là pour nous abaisser à tes yeux, Seigneur, si quelque chose ne va pas dans notre vie. Seigneur, tu connais nos luttes, tu connais nos combats. Et Seigneur, nous voulons te demander ton aide, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, marcher dans la victoire que Jésus accomplit sur la croix et aussi à travers sa résurrection. Et Seigneur, nous voulons vraiment nous en remettre à toi en toutes choses. Seigneur, nous voulons vraiment que tu manifestes ta gloire à travers nous. Et Seigneur, nous te prions, si nous avons besoin de délivrance, que tu puisses accomplir ce miracle dans nos vies, afin, Seigneur, que tu puisses te réjouir de voir que là où tu as placé ton Église, eh bien, l'Esprit agit, l'Esprit travaille avec puissance, afin d'amener le plus grand nombre possible à la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous t'avons prié. Amen.